Alors, on continue notre petite série dans Ésaïe. Et aujourd'hui, le chapitre 5, du verset 8 au verset 30. Alors, pour mieux suivre, je ne vais pas tout lire du texte avant de commencer, parce que vous allez voir qu'il y a un certain découpage qui nous permet de le faire petit à petit et que ce sera plus facile à suivre. Mais je voulais dire deux choses en introduction. La première chose, que je répète déjà depuis au moins cinq dimanches, sur le prophète et les prophètes de l'Ancien Testament, c'est que les prophètes font deux choses. Ils voient. Donc, dans l'Ancien Testament, à certains moments, on appelait les prophètes les voyants. Ils voient. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient d'abord la situation réelle du peuple. Et deuxièmement, ils voient ce qui va arriver si le peuple continue dans son péché, ou ce qui va arriver si le peuple se repent. Donc, dans les prophètes, il y a toujours à la fois le présent et le futur. Et donc, la première chose, c'est cette lucidité de vous bien voir la vraie situation du peuple, et cette lucidité de dire ce qui va se passer s'il n'y a pas de changement. Voilà la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que le thème, en quelque sorte, de ce chapitre est sorti d'une discussion autour de ma table de discussion à Passerelle dimanche soir, dimanche passé, où finalement on se disait, mais comment ça se fait qu'il est difficile d'expliquer parfois l'évangile à ceux qui sont autour de nous? Et on s'est rendu compte que pour beaucoup de personnes, ils ne voient pas la différence entre deux choses. Dieu est tout, ou Dieu est un petit quelque chose qu'on ajoute à sa vie. Et finalement, on a parlé de ce mot qui est très très utilisé de nos jours. Hein, dans mon enfance, on ne prononçait pas ce mot-là, le mot option. Alors, ma première voiture, on achète la voiture, point. Aujourd'hui, quand on achète la voiture, le vendeur veut savoir quelles sont les options que l'on veut avec la voiture. Donc, on prend plein d'options. Et donc, c'est la même chose avec son ordinateur. On ne dit pas forcément, bon, on peut dire options, mais on peut dire aussi préférences. On choisit. Et ce que le prophète va nous dire, je pense, dans ce chapitre, c'est que Dieu n'est pas une option supplémentaire qu'on ajoute à sa vie. On ne vit pas sa vie en disant que c'est bien d'avoir cette option, en temps de difficulté, à un certain moment, c'est utile. Non, Dieu est tout. Donc voilà un petit peu la thématique qu'on va essayer de suivre. Alors, dans ce chapitre, on prononce deux fois, pardon, six fois le mot malheur. Face à un certain nombre de personnes, les exploiteurs, les fêtards, les moqueurs, les libertaires, les orgueilleux, et puis de nouveau les fêtards, et les fêtards et les réalistes. Bon, c'est les mots que j'ai choisis pour expliquer les malheurs. Donc, ce que l'on va faire, d'abord, c'est de regarder ces six malheurs. Pourquoi Ésaïe dit-il malheur? Donc, le premier, ce sont les versets 8 à 10 que je vais lire. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un bat, et qu'un homer de semences ne produira qu'un épha. Bon, quelques éléments qu'il faut que j'explique dans ce texte. Mais d'abord, il y a les exploiteurs. Selon le dictionnaire Larousse, c'est une personne qui exploite à son profit et d'une manière abusive quelque chose. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'ils font, les exploiteurs? Ils prennent les maisons et les champs qui appartiennent aux autres. Pourquoi je dis ça? Est-ce que c'est dans le texte? Pas directement. Mais c'est important de savoir que dans le peuple d'Israël, ils vivaient quelque chose qui était unique dans l'Antiquité. C'est-à-dire que chaque tribu, chaque clan, chaque famille avait sa terre. Pourquoi unique? Parce que dans tous les autres pays, la terre appartenait au roi, au pharaon, ou parfois au grand prêtre du temple de la religion du pays. Ils permettaient que des personnes habitent sur ces terres, pourvu qu'ils apportent suffisamment d'impôts, ou de dîmes, ou je ne sais pas quoi, au roi, ou au prêtre, etc. Israël était unique dans l'Antiquité, parce que Dieu a dit « la terre est à moi », et non pas au roi ou au prêtre. Et après, il a donné en héritage, en quelque sorte, on peut dire, ces terres aux différentes tribus. Vous pouvez chercher des fois sur les cartes à la fin de la Bible, les cartes qui indiquent où chaque tribu se trouvait. Et à l'intérieur de chaque tribu, chaque clan et chaque famille, et chacun avait le droit d'exploiter au nom de Dieu. C'est un que Dieu leur prêtait en quelque sorte. Maintenant, il était permis dans certains cas que quelqu'un s'appauvrisse et que quelqu'un le rachète en quelque sorte. Mais attention, au bout de 70 ans, au jubilé, toutes les terres revenaient au premier, j'ose pas dire, propriétaire, parce que c'est Dieu qui est propriétaire, mais à ceux à qui Dieu avait donné en usage, en quelque sorte, ces terres. Et les rois en Israël ne respectaient pas ça. D'ailleurs, dès le début, on leur avait dit, vous demandez un roi, mais il va prendre vos fils et vos filles comme serviteurs, il va prendre vos terres, etc. Donc, c'était ça ce qui était prévu en quelque sorte. Et on a un bon exemple de ça pour ceux qui connaissent cette histoire du roi Akab qui voulait absolument une vigne qui appartenait à Naboth, donc un voisin qui finalement trouve le moyen de le tuer pour prendre ses terres. C'était pas normal. C'est une vigne qui appartenait à la famille de Naboth sous le regard de Dieu et on n'avait pas le droit de les prendre. Donc le malheur, c'est que les rois faisaient comme tous les autres pays, et ne respectaient pas la loi de Dieu par rapport à l'utilisation des terres. Et c'est pour cela que maintenant Esaïe lève les yeux vers l'avenir, et il dit au verset 9, « Certainement ces maisons nombreuses seront dévastées, et ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. » Et chaque fois on a vu que tout cela s'est réalisé un siècle plus tard, quand tout le peuple était emmené en captivité à Babylone. Et même d'ici là, on va dire, ça ne profitera pas au pays, parce que le verset 10 dit, bon, pour ça il faut connaître les poids et mesures en Israël, que 10 arpents de vie ne produiront qu'un bat, et un homère de semences ne produira qu'un épha. Ça veut dire en fait, j'ai dû regarder hein, parce que je ne connaissais pas par cœur, c'est que veut dire, si on, pour on ne récoltera que 10% de ce qu'on sème. Donc, il n'y aura même pas de profit, même pas de bénéfice, en fait. On ne récoltera que 10% de la valeur de la semence. Donc, premier malheur. Deuxième malheur, versets 11 et 12, ce que j'ai appelé les fêtards. Je lis. « Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes, et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Et ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Ils ne voient point le travail de ses mains. » Le problème n'est pas en soi la musique. C'est un don de Dieu. Ni, j'ose dire, le vin. Parce que même dans la Bible, Jésus a changé l'eau en vin. C'est pas ça. Mais c'est cet usage à outrance qui fait quoi? Qu'on oublie Dieu. Qu'on noie toute pensée dans l'alcool, en quelque sorte. Et donc, tout ce qu'on veut, c'est faire la fête, c'est de s'amuser, c'est le fun, mais on ne pense pas à Dieu, à ce qu'il fait. Donc, voilà pourquoi c'était un malheur. Troisième, les moqueurs. les versets 18 et 19. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché avec les traits d'un char et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous le connaissions. Alors, en fait, c'est l'image d'une bête qui tire une charrette et ces hommes-là tirent le péché derrière eux, en quelque sorte. Hein. Dans le semeur, c'est traduit comme ceci. Malheur à vous qui traînez le péché derrière vous avec les cordes du mensonge et qui tirez la faute comme les traits d'un attelage. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire, mais où est Dieu? S'il existe, qui se manifeste? Sinon, on va continuer à faire. C'est ça qu'ils disent, hein, le verset 9. Qu'il hâte, afin que nous le voyions. Que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin que nous le connaissions. Mais jusque-là, il ne fait rien, donc nous, on va continuer à faire comme on a toujours fait. Donc, ce sont les moqueurs. Verset 20. Ce que j'ai appelé les libertaires. Verset extrêmement actuel, moi je trouve. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Donc, comme on a déjà vu, les riches refusent d'obéir à la loi de Dieu. Ils cherchent à oublier tout cela dans la boisson, ils noient leur conscience dans l'alcool en quelque sorte, mais au-delà de cela, ils poussent jusqu'au bout ce qui a commencé dans le jardin d'Éden, cette notion d'autonomie, nous on décide. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est mal, même si en fait c'est contraire à la parole de Dieu. Donc on va revenir à cela tout à l'heure. Verset 21, ce sont les orgueilleux. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Ils se croient intelligents. En quelque sorte, ils disent, Dieu a dit des trucs, moi je sais mieux que lui. C'est comme chacun de mes enfants vers 13-14 ans, chacun, j'en ai quatre, qui ont dit plus ou moins les mêmes mots, papa, je sais mieux que toi. Ça fait partie de la vie quelque part quand on est adolescent, ça viendra. Et donc, là, ils disent, ils se croient intelligents, ils sont orgueilleux. Et puis à la fin, les versets 22 et 23, ils reviennent à ces fêtards bis, mais aussi ce qu'on peut appeler les réalistes. Je vais expliquer pourquoi. Versets 22 et 23. Malheur à ceux qui ont de la bravoure, du courage pour boire du vin. Et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. Donc il y a deux choses là. D'abord, on revient au fait qu'il y a beaucoup de courage à boire autant de vin et de liqueurs fortes, mais aussi il y a, et c'est pas un jeu de mots que je fais parce que c'est littéralement le cas, en quelque sorte, et qui compte, c'est les pots de vin, littéralement, dans le contexte. Les dessous de table, tout ce qu'on veut. Les juges acceptent un cadeau, donc ils justifient le coupable. Et ils enlèvent aux innocents leurs droits. Je sais, pas facile d'être juge, mais je ne fais pas allusion à l'actualité. Mais, c'est pas facile, mais ce que la Bible condamne, c'est pour un cadeau de justifier le coupable et de condamner l'innocent. Et ça m'a fait penser, j'ai repensé une belle phrase que j'ai entendue une fois, il y a longtemps, en parlant de quelqu'un, qu'il connaît le prix de tout, mais la valeur de rien. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'être réaliste. Il pense que l'argent va lui permettre d'arriver à ce qu'il veut. Donc il y a un prix. Mais il ne connaît pas la valeur, en fait, de la justice, et la valeur des pauvres et des innocents à défendre. Donc il connaît le prix de tout, mais la valeur de rien. Donc voilà, il y a six malheurs. Et maintenant, donc ça c'est la lucidité présente, maintenant il y a quatre c'est pourquoi. Donc là, on va voir les résultats. Quatre fois c'est pourquoi. D'abord, le verset 13, en fait c'est de... Oui, c'est le verset 13. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif et sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. Donc là, c'est une allusion évidente à cette captivité qui aura lieu donc, en 587 avant Jésus-Christ, la captivité à Babylone. Deuxième, c'est pourquoi, les versets 14 à 17, je lis. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule brillante et joyeuse. Et les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et le regard des hautains seront abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement. Et le Dieu Saint sera sanctifié par la justice. Des brebis paîtront comme sur leur pâturage, et des étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Et là, c'est très riche, Ésaïe, parce qu'il vient de parler des festins, de boire, etc. Il dit, mais maintenant, il n'y a pas que ces fêtards qui ouvrent la bouche. Il y a aussi, verset 14, le séjour des morts qui ouvre sa bouche pour dévorer. Donc il n'y a pas que les fêtards. Il y a aussi le séjour des morts qui ouvre sa bouche. Et donc, c'est vrai que suite à cet exil, beaucoup de gens sont décédés, ont été tués lors de la venue de l'armée babylonienne, que ce soit les grands et les petits. Mais ce qu'on ajoute ici au verset 16, c'est que finalement, celui qui sera glorifié à ce moment-là sera Dieu. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement. Ou le semeur, la version du semeur a traduit, le Seigneur des armées célestes montrera sa grandeur en instaurant le droit. Parce qu'on peut dire le jugement, c'est aussi le droit. C'est il va instaurer le droit. Il n'y aura pas les cadeaux. Pour les juges, il y aura le droit. Et ce droit, lui, il montre l'exemple, parce que lui, c'est toujours, on le sait, le juste juge. C'est le juste juge. Troisième, c'est pourquoi, le verset 24, un long verset, c'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière. Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Donc, si on méprise la parole de l'Éternel, bon, j'ai mis à l'écran encore la traduction du semeur, vous serez consumés comme un fétu de paille, dévoré par la flamme. Ça ne fera pas long feu, littéralement. Ça sera rapide. Ça ne peut plus continuer comme cela. Parce qu'ils ont dédaigné la loi et la parole de l'Éternel. Et puis, la quatrième fois sur pourquoi, c'est le verset 25, sur pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et le frappe. Les montagnes s'ébranlent, les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues, et malgré tout cela, sa colère ne s'apaise pas, et sa main est encore étendue. Donc, la colère de Dieu N'oublions pas, ce n'est pas parce qu'il se fâche, il perd la maîtrise de lui-même. La colère de Dieu, c'est son opposition féroce contre le mal. Et la seule solution pour nous, on l'a vu pendant la présidence, c'est le pardon de Dieu qu'il accorde à tous ceux qui demandent. Le pardon à la place de sa colère. Donc voilà, tous les six pourquoi. Et le chapitre termine avec, en fait, l'issue finale. On voit que Dieu siffle pour faire venir les Babyloniens avec toute leur force militaire. Hein, c'est un peu l'image de quelqu'un qui est un chien, qui court dans un pré, qui siffle pour que le chien revienne. Et là, Dieu fait venir l'armée babylonienne, comme si, je vais pas le faire, comme s'il siffle pour dire, voilà, vous pouvez venir maintenant, vous pouvez venir. Je lis ces versets qui sont une description terrible de cette armée qui va venir, du verset 26 au verset 30, donc jusqu'à la fin du chapitre. Dieu élève une bannière pour les peuples lointains. Il en siffle un des extrémités de la terre. Et voici, il arrive avec promptitude et légèreté. Nul, donc aucun des soldats n'est fatigué. Nul ne chancelle de lassitude. Personne ne sommeille ni ne dort. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni la courroie de ses souliers rompue. Ses flèches sont aiguës et tous ses arcs tendus. Les sabots de ses chevaux ressemblent à des cailloux, et les roues de ses chars à un tourbillon. Son rugissement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme du lionceau, il gronde, il saisit la proie, il l'emporte, et personne ne vient à son secours. Et en ce jour, il y aura près de lui un mugissement comme celui d'une tempête sur la mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance, mais au ciel, l'obscurité régnera. Donc, une description terrible de cette armée qui va venir. Donc, alors, comme on a vu la semaine dernière, comment on va comprendre ça dans notre situation actuelle? Donc, on va revenir sur les six malheurs, parce qu'on a encore cette situation aujourd'hui. Il y a beaucoup d'exploitation dans ce monde. Les pauvres sont toujours là. Faut pas non plus. Enfin, il y a plusieurs raisons qui expliquent la pauvreté. Hein. Ça peut être tout simplement la paresse de la personne concernée. Ça peut être l'imprudence, mais aussi une mauvaise récolte. Des catastrophes naturelles, il y a plein de choses hein, qui font que c'est comme ça. Et on sait que c'est facile dans un sens que les riches s'enrichissent parce que avec le profit, ils peuvent acheter une maison qu'ils louent. Donc, ceux qui louent après enrichissent encore celui qui a acheté. Et qu'est-ce qu'il faut voir avec tout ça? C'est le bon côté ou le mauvais côté du capitalisme, je dirais bibliquement, je fais une petite parenthèse là, que d'une part, même Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous, ça existera toujours. Et de nos côtés, il ne dit pas que les riches doivent tout donner. Donc je pense par exemple à 1 Timothée 6, où on voit une certaine équilibre dans tout ça. Timothée doit dire aux riches, en Timothée 6, 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien et d'être aussi riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et la générosité. » Donc, Timothée n'est pas obligé, ne dit pas aux riches, il faut tout donner, mais qu'il soit généreux. Parce que dans notre situation anormale dans lequel nous nous trouvons entre la venue de Jésus et la fin du monde. Nous faisons partie de la société et il me semble évident que pour la tranquillité d'un pays où on habite, qu'il faut éviter que l'écart entre les pauvres et les riches se creuse trop, sinon à la fin, on ne maîtrise plus les choses. Ça ne veut pas dire que certains n'ont pas le droit d'être plus riches que d'autres, mais quelque part, il faut quand même essayer d'arrêter, comme le plaidoyer de Miché, par exemple le défi Miché fait par le sel, que l'exploitation soit excessive. Bon. Petit commentaire, mais je ne veux pas que ce soit un commentaire politique, hein, parce que ce n'est pas dans ce sens-là que je le dis, mais c'est cette réflexion qu'il faut éviter et prier que nous puissions vivre dans la tranquillité. Ça, c'est la prière dans 1 Timothée chapitre 2. Les fêtards. Bon. Je pense que là, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne vivent que pour le fun. Hein, donc, on travaille parce qu'il faut. On s'éclate le week-end. C'est à peu près ça. Je pense que les chrétiens ne sont pas forcément... ils n'ont pas à avoir une attitude puritaine. Où c'est bien de sourire. C'est bien d'être joyeux. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Donc ça on n'est pas avoir un visage triste tout le temps, c'est pas ça. Mais n'oubliez pas ce que dit le texte. Le problème, c'était ils ne prennent pas garde à l'œuvre de Dieu. Et là, l'appel pour nous, c'est de ne pas oublier Dieu. Parce que beaucoup, beaucoup de personnes, et Blaise Pascal l'avait dit déjà au XVIIIe siècle, se donnent dans des activités pour ne pas penser. C'est un texte que j'aime bien de lui, où il décrit la personne qui, pour tout oublier, va jouer au tennis, le jeu de paume comme on l'appelait à l'époque. Il dit, mais comment ça se fait qu'ils ne pensent pas aux choses importantes de la vie? C'est qu'ils sont en train de réfléchir comment ils peuvent renvoyer la balle qu'on vient de lui envoyer en quelque sorte. Donc tout est là. Et il a dit aussi, tout le malheur de l'homme vient de ce qu'on ne sait pas rester seul et tranquille dans une pièce. Parce que à ce moment-là, on est obligé de réfléchir. Donc ne soyons pas fêtards à ce niveau-là. Les moqueurs. Pierre en parle. Dans 2 Pierre 3, je vais juste lire le texte. Il viendra des moqueurs. Ça, c'est 2 Pierre 3, verset 4. Il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leurs propres convoitises. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. C'est exactement le parallèle dans Ésaïe. Que Dieu se révèle, que Dieu s'exécute. Puis s'il existe, on verra bien. Les libertaires et les orgueilleux. Toujours ces mêmes incohérences. On parle de droits, mais on ne veut pas de tous les droits. Je vais juste donner un petit exemple, même si je suis enregistré. Vous savez peut-être aujourd'hui que pour la première fois depuis 2 ans, il y aura une manif, la manif pour tous. Donc, la première fois depuis 2 ans. Et j'ai vu sur un journal, là je ne dirai pas le nom parce que je suis enregistré, mais le titre était « Manif pour tous, le retour de la haine ». Simplement parce qu'il y a des gens qui veulent exprimer autre chose. On dit le retour de la haine. Mais ça, c'est exactement ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, qui sont sages à leurs propres yeux, qui se croient intelligents. Donc là, je l'ai lu hier. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Dieu n'est pas une option en plus. Et j'aimerais vous lire un texte sur lequel je suis tombé cette semaine. c'est une photocopie d'un livre, et ben, je ne sais pas lequel. Donc pour tout copyright, je dis pour l'enregistrement, si quelqu'un connaît le livre, qui me dise de quoi il s'agit. Et le chapitre s'appelait « Notes de Gaza », c'est tout. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien exprimé, cette notion de Dieu comme une option ou Dieu comme tout. Donc je lis. La lecture de la Bible est un acte de crise. Jour après jour, semaine après semaine, elle nous introduit dans un monde qui est totalement en désaccord avec celui que le journal et la télévision nous apportent sur un plat, comme notre ration quotidienne d'informations pour nos conversations et nos préoccupations. Dans la Bible, c'est un monde où Dieu est à l'œuvre partout et toujours, où Dieu est la grande cause première et non une idée rajoutée après coup, où Dieu ne peut être repoussé à plus tard, où tout dépend de lui, mais où Dieu ne dépend de rien. La lecture de l'Écriture nécessite une réorientation catégorique de nos déclarations et de nos procédures, conditionnées par la culture et orientées par notre profession. La crise dans laquelle plonge la lecture de l'Écriture ne se manifeste généralement pas par une grande intensité émotionnelle ou par une volte-face spectaculaire, mais par une prise de conscience solennelle, renouvelée journellement, que le monde de la réalité auquel nous nous sommes consacrés par un acte de foi est un monde constitué par Dieu et qui en appelle à nous. Et ce n'est pas un monde constitué par l'homme dans lequel nous en appelons à Dieu quand nous en avons envie. Dans le monde culturel ambiant, tout peut prendre une signification sans Dieu. Dans le monde de la Bible, rien n'a de sens en dehors de Dieu. Ce texte m'a frappé. Dieu n'est pas, je voulais dire d'une autre façon, Dieu n'est pas une pièce rapportée, qu'on ajoute quelque part. Et j'ai trouvé cette pensée très importante pour nous. C'est ça que Ésaïe est en train de dire. C'est pas la peine d'avoir les sacrifices au temple, de peut-être le Shabbat, de faire un petit peu acte de présence au temple, ou je ne sais pas quoi. Si toute la semaine, on vit autrement. Dieu est tout ou Dieu n'est rien. Dieu n'est pas une option ajoutée après coup. Prions. Seigneur, je sais combien j'ai besoin d'entendre cela et aussi combien nous avons tous besoin de nous plonger continuellement dans ta parole, parce que c'est ta parole qui va changer notre façon de penser et notre façon de vivre. Merci déjà pour cette histoire que nous avons lue ce matin, de ce roi qui a tout pardonné, mais l'homme qui a pardonné n'a pas voulu pardonner à son tour. Ça, nous avons besoin d'entendre des choses comme cela. Nous avons tellement besoin de vivre dans ton monde, tel que c'est la réalité, tel que nous le trouvons dans ta parole. Seigneur, tout simplement, nous voulons que tu sois le Seigneur, le Roi dans notre vie. Nous te supplions, Seigneur, de nous transformer, de nous aider à comprendre ta parole et de vivre plongés dans cette parole, même lorsque nous sommes plongés aussi, comme cela est nécessaire, dans le monde tout au long de la semaine, avec notre travail, avec nos amis, avec tout ce qu'on entend dans les médias. Seigneur, cela, c'est vrai, c'est un peu radical, mais c'est parce que nous voulons t'aimer avant toute chose et aimer notre prochain avant toute chose que nous te le demandons, Seigneur, nous te demandons cette grâce. Seigneur, ne sois pas simplement une option ajoutée à notre vie, mais le centre de notre vie, au nom de Jésus. Amen.